last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
To miał rację. Ten, co leci, czekał w górach. Czy ten, co się ukorzył i służy?
C'est parti pour la 22e édition du Arras Film Festival organisé par l'association Plan Séquence, enfin libérée de la pandémie du Covid-19 qui a vu l'annulation de l'édition 2020. Au sommaire de ce premier épisode, focus sur le film proposé en avant-première, A Good Man, de Marie Castille Mention-Char, avec une chronique du film de Patrick et une interview de la réalisatrice. Ce film traite d'un sujet délicat, les couples gays ou transgenres, la PMA et la transition par le biais d'une opération pour changer de sexe. Et pour clore ce magazine, bien évidemment, on terminera par un agenda de quelques films à voir et autres temps forts pour demain, mardi 9 novembre.
Pour ce premier billet de l'Arras Film Festival, j'ai choisi de vous parler du film de Marie Castille Mention-Char, réalisatrice connue notamment pour des longs métrages comme Les Héritiers, où l'on suivait le parcours d'une classe difficile d'un lycée de Créteil qui se lançait à l'initiative d'un prof dans un concours national d'histoire, ou encore Le ciel attendra, un film sur la radicalisation islamiste. Un autre sujet tout aussi délicat nous est proposé avec A Good Man, un film traitant du désir d'enfant au sein d'un couple LGBT. Les premières minutes nous montrent Benjamin en tant qu'infirmier attentionné et Aude en tant que professeur de danse pour enfants. Très vite, l'on apprend que Benjamin est né dans un corps de femme et qu'il est en plein processus de transformation. Le couple s'est installé loin de leur région provençale d'origine pour vivre une relation pas facile à assumer sur une île de la terre bretonne.
Est-ce que vous pourriez me dire comment est né ce désir d'enfant ?
Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai hyper envie d'être maman.
Je sais pas, c'était évident. Tout de suite, j'ai ressenti le désir d'avoir des enfants avec Aude.
Prêt ?
C'est vrai, mon chéri ?
Et que représente pour vous le fait d'avoir des enfants ?
Tellement de choses.
On veut avoir une famille. Aude ne peut pas... Alors c'est moi qui vais porter notre enfant.
Aude rêve d'un enfant, mais souffre de ne pas pouvoir en avoir. Alors Benjamin décide que c'est lui qui le portera pendant qu'il en a encore la possibilité. Comment va réagir la famille, les amis, la société, devant cette grossesse de Benjamin qui se retrouve enceinte ? Aude, la compagne de Benjamin, va aussi être perturbée et faire une crise de jalousie au point de laisser Benjamin seul face à cette situation. Je n'en dirai pas plus sur le sujet du film, un film qui a l'intelligence de présenter les problématiques d'un tel sujet et de les traiter de manière intelligente.
Porter un enfant, c'est considéré de manière universelle comme étant le symbole de la féminité.
Tu te rends compte là du sacrifice que tu veux faire ?
Quel sacrifice ?
Si ça marche, comment tu vas vivre ça ?
Je sais pas où on va moi non plus, je sais pas comment les gens vont réagir, je sais pas comment moi je vais réagir. Mais on en a traversé des choses, non ?
Tu peux pas avoir de parents plus cool que toi.
Là dans la loi, là moi je suis rien.
On s'en fout de la loi, tu seras sa mère, tu es sa mère.
T'as choisi d'être un homme, Ben. Un homme ! Mais j'ai pas choisi ! Quand est-ce que tu comprendras que c'est pas un choix, putain !
La critique n'a pas toujours été tendre avec ce film, et en a critiqué les nombreux stéréotypes. Je me suis cependant retrouvé très vite interpellé par cette histoire, inspirée de faits réels. La tolérance est placée au cœur du sujet, les émotions sont palpables, l'attention soutenue en dépit de certaines digressions, le tout bien filmé dans le très beau décor naturel de l'île de Groix.
On retrouve à présent la réalisatrice, scénariste et productrice du film pour un entretien réalisé après la rencontre avec le public, avec la complicité de Alex pour Radio PFM.
Marie Castille, mention char, comment ça s'est passé du coup cette rencontre avec le public ?
J'ai envie de dire comme ça se passe à peu près tous les jours depuis 3 mois. Voilà, où on fait beaucoup d'avant-premières en France, en Suisse, un peu partout. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'émotion dans le public. Beaucoup de questions très intéressantes, mais beaucoup de bienveillance.
Pas facile hein, de s'attaquer à une histoire hein, qui parle à la fois des couples gays, transgenres, la PMA et l'opération pour changer de sexe. Pour la jeunesse de ce film, je crois savoir que c'est après avoir visionné un documentaire hein, qui évoquait le sujet que vous avez eu l'idée vraiment du scénario.
C'est pas l'avoir visionné, j'ai un peu participé de loin à la production de ce documentaire qui s'appelle Kobe, qui a été réalisé par mon co-scénariste et documentaire sur son frère trans, Jacob Hunt. Et donc j'ai rencontré, bien sûr. Et Jacob, dans ce documentaire, avait une discussion qui m'a totalement chamboulée parce qu'il était à quelques semaines de faire son hystérectomie. Et il avait très envie de finir sa transition et pour lui sa transition passait par cette étape mais en même temps il réalisait que avec cette étape là eh bien il mettait une croix sur son désir de devenir père puisqu'avec sa compagne avait une peur bleue de d'être enceinte. Et donc, il savait que dans leur couple, celui qui pouvait porter l'enfant, c'était lui, pour avoir un enfant de la manière la plus naturelle possible. Et donc, il savait qu'en finissant sa transition, et ben, il mettait une croix là-dessus. Et c'était une grande douleur pour lui. Ça m'a complètement éveillée en fait, à un sujet que je connaissais peu, bien sûr. Ça a déconstruit beaucoup de choses chez moi par rapport au rôle que la société a tellement construit avec beaucoup de solidité et sur c'est quoi être un père, une mère, c'est quoi est-ce que être un parent, ça a un genre en fait. Et puis surtout ce désir de vouloir fonder une famille et à quel point pour certains c'est compliqué, c'est même interdit, c'est douloureux, et puis d'autres c'est tellement facile et en fait où on leur demande rien et donc ça m'a donné envie de me plonger dans ce sujet, de découvrir beaucoup d'histoires passionnantes, d'histoires d'amour d'hommes qui avaient porté leur enfant parce que comme dans le film leur compagne ne pouvait pas en avoir, comme Thomas Beatty par exemple qui a porté ses 3 enfants et puis d'autres qui sont dans un couple homosexuel et qui portent leur enfant j'ai découvert des histoires passionnantes et j'ai eu envie de le faire découvrir au public.
Vous parlez du documentaire, est-ce que comme dans ce documentaire vous avez partagé avec des personnes trans pour pouvoir créer cette histoire, quelle place ont pris les personnes concernées dans l'écriture ou le conseil peut-être à l'actrice qui joue le rôle ?
Beaucoup, je me suis beaucoup entourée, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont accepté, m'ont fait confiance, ont été très généreuses avec moi sur leur vécu, sur leurs histoires, sur leurs ressentis, donc non seulement sur l'écriture, je les faisais relire, je les faisais me dire s'il y avait des choses qui les dérangeaient, le moindre détail, parce que souvent c'est dans le détail en fait que va se nicher quelque chose qui pour moi peut me sembler normal mais qui pour quelqu'un ça va être pas le cas, donc je voulais vraiment avoir leur regard, mais aussi sur la préparation, le travail avec Noémie, elle a beaucoup été entourée et conseillée, légitimée aussi par ces personnes qui lui disaient en voyant comment elle travaillait, comment elle préparait son rôle, et ensuite quand ils ont vu le film, qui lui ont dit que vraiment il fallait qu'elle soit très fière de ce qu'elle avait fait Donc, y en a qui étaient là pendant le tournage, et qui sont là pendant la promotion.
Pour le casting, hein, et en particulier pour le personnage de Benjamin, qui est joué par Noémie Merlan, et celui de Aude, hein, Soko, est-ce que ça a matché tout de suite, en fait ? C'était clean, évident pour vous
Alors, j'avais fait 3 films avec Noémie avant, donc je sais quelle interprète elle est, c'est-à-dire comment elle va incarner, comment elle va travailler, comment elle va, la sincérité qu'elle va mettre dans les personnages qu'elle incarne. C'est pas le genre d'actrice qui fait les choses pour avoir, pour qu'on dise « Ah, c'est une super performance !» et tout. Elle le fait parce que le personnage la touche, le personnage, elle a envie de respecter le personnage, quoi. Donc, je savais que c'est comme ça qu'elle allait travailler, beaucoup. Mais ce qui m'a pas empêché de rencontrer quelques acteurs trans pour voir si je... Voilà, pour me dire peut-être que je vais rencontrer quelqu'un. Mais il fallait qu'il ait l'expérience, le talent, pour porter le personnage, comme je savais, parce que j'avais travaillé avec elle, bien sûr. Je savais, puis j'avais vu ses autres films aussi depuis, parce qu'on en a fait 3, mais elle en a fait plein d'autres. Donc voilà, et c'est vrai que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est l'expérience aussi, bien sûr, parce que l'expérience, ça s'acquiert. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à un des acteurs qui a fait les essais pour Benjamin de jouer dans le film, mais pas un personnage trans, de jouer un personnage, un petit rôle que je lui écrirais et qui ferait en sorte que il commence à avoir une expérience au cinéma parce qu'il n'avait jamais tourné au cinéma. Voilà.
Moi, j'ai assisté à la rencontre publique, donc de tout à l'heure après la projection. Il y a un mot qui a été utilisé, c'était le sacrifice de Benjamin, de porter cet enfant. Est-ce que quand vous l'avez écrit, vous avez écrit dans votre tête, c'était un sacrifice qu'il faisait, ou est-ce que c'était simplement un chemin de vie qu'il prenait
Alors, c'était pour moi, c'est vraiment parti de la discussion que j'ai eue avec Jacob. Parce que effectivement, si Jacob l'avait fait, ça aurait été un sacrifice. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il mette en pause sa transition et que lui, il l'a pas fait, mais il l'a regretté d'ailleurs. Mais donc en ça, c'est un sacrifice. En tout cas, c'est un acte de courage. Ça, c'est sûr. Voilà. Je ne sais pas si c'est un sacrifice, mais c'est un acte, un grand acte de courage. C'est pour ça que ça s'appelle le Goodman, d'ailleurs.
Et justement, pour que le couple fonctionne à l'écran, est-ce que vous avez laissé carte blanche à Soko et à Noémie, justement, pour travailler ensemble, pour construire cette relation ?
Oui, ça, c'est quelque chose que je leur avais dit. J'avais très envie que, comme un couple, l'intimité d'un couple, quoi, qu'elles aient des petits détails, des petites histoires, que ce couple se raconte, et je voulais pas le savoir comme l'intimité d'un couple encore et donc j'avais dit on verra parfois ça va jaillir comme ça lors d'une scène et puis je serai la première à le découvrir et ça me plaira.
Le lieu choisi également, l'île de Groix, donc en Bretagne, un peu isolée, c'était aussi une évidence pour vous de les mettre un peu dans une sorte de bulle.
Oui, la bulle.
Il y a une métaphore avec ce jongleur de bulle. Hein, oui, donc voilà.
Tout à fait. Non, oui, c'est une bulle. C'est une bulle, c'est un cocon. C'est un lieu un peu où ils refont leur vie de couple, mais où ils peuvent, à leur guise, traverser l'océan et aller de l'autre côté. Et puis aussi parce que c'est une île où j'avais découvert ça à Groix, parce que j'y vais chaque année. Et dans ces îles-là, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de grande structure médicale, etc. Donc les infirmiers et les infirmières libérales ont un lien très très fort avec la population, parce que souvent ce sont eux qui vont faire les soins, et donc il y a beaucoup plus de choses qui se développent entre les infirmiers et les gens, parce que ça devient vraiment des amis, quoi, au fur et à mesure. Et donc j'avais envie de ça pour Benjamin.
En parlant de traverser l'océan, du coup, au moment où il y a une dispute dans le couple et où Aude ne trouve pas sa place, elle s'en va, elle traverse l'océan et puis elle part. Est-ce que c'était nécessaire pour vous dans le scénario qu'à un moment elle s'en aille ?
Oui, parce que comme elle dit, fallait qu'elle trouve sa place de mère. Et ça, je l'ai dit justement pendant le débat, mais il y a beaucoup de pères qui s'identifient au rôle d'Aude parce qu'ils n'ont pas eu ce lien de cette période de la grossesse où c'est difficile pour eux d'établir, et surtout quand on est une personne comme Aude qui pendant des années a voulu devenir mère, qui a eu plusieurs fausses couches, etc. Donc tout d'un coup, il faut qu'elle... Elle est celle qui est un peu exclue de cette période-là. Et ben, il faut, c'est compliqué à vivre, je pense. Donc il faut qu'elle trouve, sa place de mère pour pouvoir revenir, avec. Avec tout ce qui va se construire après et en laissant cette période-là, je crois que c'était important pour elle que les derniers mois, elle laisse Benjamin, aussi difficile que ce soit pour Benjamin.
Place à l'agenda de quelques films à voir pour demain, mardi 9 novembre, avec tout d'abord, dès 9h30, dans la section Découvertes européennes, Les aventures d'un mathématicien, une coproduction allemande, polonaise et anglaise réalisée par Thorsten Klein. Vous pourrez suivre les coulisses du projet Manhattan, projet qui avait pour but de réunir des scientifiques dans le secret afin de fabriquer une nouvelle arme permettant de vaincre l'Allemagne nazie tout au début de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les séances avec invités, à 16h, rencontre avec l'équipe du film ukrainien réalisé par Daria Onichenko, The Forgotten, proposé dans la catégorie Vision de l'Est. 19h, le film L'événement de Audrey Diwan, qui traite de l'avortement dans la France conservatrice des années 60. La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice. Autre rencontre, celle autour de l'avant-première La Brigade avec l'équipe du film à l'issue de la séance, et ce sera à 21h15 au Casino. Et puis à 21h30, mais cette fois-ci au Megarama, rencontre avec l'actrice Irma Witowska du film ukrainien dans la section Vision de l'Est, My Thoughts Are Silent. On termine cet agenda par deux autres temps forts. À 19h, ciné-concert avec Crinque Bille, emmené par Jacques Cambra en collaboration avec le Conservatoire d'Arras, et ce sera à la chapelle du Pôle culturel Saint-Pierre. Et puis à partir de 23h, pour les amateurs d'histoire à chanter debout, l'after music. Et c'est au village du festival en compagnie de Emeline Toucourt.